Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. Le gouvernement veut interdire l'accès des mineurs aux sites pornographiques. On parle là d'enfants âgés d'à peine 11 ans qui sont exposés à des vidéos X ou à des harcèlements décomplexés qui sévissent sur les réseaux sociaux. L'Info C'est clair est intitulé « Porno, harcèlement, nos enfants en danger ». Nos invités, Béatrice Copper-Royer, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence, membre du comité sur la protection du jeune public de l'ARCOM. Votre podcast En Famille sera bientôt disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
Oui, absolument.
Justine Atlan, vous êtes directrice générale de l'association e-enfance. Je précise que vous êtes également en charge du numéro qui va s'afficher, du numéro donc pour les victimes de harcèlement, c'est le 30-20, et pour les victimes de cyberharcèlement, c'est le 30-18. Et puis Adrien Brachet, vous êtes journaliste en charge des questions d'éducation à Marianne. En une de Marianne cette semaine, la France est belle quand elle dit non. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, hein, le gouvernement doit annoncer un dispositif afin d'empêcher les moins de 18 ans d'accéder au contenu pornographique. Il faut savoir qu'en moyenne, la première exposition au X intervient à l'âge de 11 ans et qu'à l'âge de 12 ans, un tiers des enfants a déjà vu des contenus X. Sujet d'Emmanuel Bach.
Il suffit de quelques clics et de cocher une case attestant que l'on est majeur pour accéder à des images pornographiques. Une pratique courante, si on en croit ses étudiants.
L'accès est vraiment très, très, très facile. On peut y aller à n'importe quel âge. Pour ma part, je sais que je suis allé, j'étais pas majeur en tout cas. Voir des femmes nues, etc., etc., c'est vrai que c'est assez choquant et perturbant, sachant que c'est la première fois.
Par exemple, tu te balades, etc., tu vois viol, nan, t'es jeune, tu te dis, waouh, quand même, c'est... Les gens, ils banalisent ça et c'est vrai que c'est pas normal. Ils devraient mettre un contrôle avec une carte d'identité, etc.
En France, une récente étude révèle que un enfant sur deux en primaire et 100% des collégiens ont déjà vu des images pornographiques. Internet, un robinet ouvert sur des contenus violents, mettant en scène parfois des viols, des actes de torture et de barbarie. C'est ce que dénonce un rapport rédigé par 4 sénatrices.
Aujourd'hui, le référentiel, le disque dur de ces générations, c'est les images pornographiques avec une image de la femme dégradée, des maltraitances, des violences sexuelles évidentes. Et donc, bien entendu, il faut qu'on inverse le logiciel et il faut qu'on démontre que la pornographie, l'industrie de la pornographie, eh ben, ce n'est pas la réalité des rapports sexuels, ce n'est pas la réalité des rapports hommes-femmes.
Deux plateformes françaises sont poursuivies par la justice pour complicité de viol et traite des êtres humains. Pour protéger les mineurs, le rapport préconise de bloquer les sites pornographiques qui ne pratiquent pas de véritable contrôle de l'âge et de généraliser le contrôle parental.
Justine Atlan, ce qui frappe, c'est l'âge. 11 ans. Enfin, 11 ans, on est un enfant encore. On n'est même pas un ado. Mais comment ça se passe? L'enfant, c'est par hasard, il surfe sur la tablette l'ordinateur de sa maman ou de son papa et hop, ça lui saute au visage.
Non, c'est pas par hasard, c'est rarement par hasard. Ça, c'est le fantasme qu'on tomberait par hasard sur la pornographie, c'est pas réel. En revanche, les enfants, ils sont curieux, ils cherchent avec des mots, parfois effectivement qui sont pas nécessairement pornographie, mais qui peuvent être sur la sexualité ou sur l'amour ou ces choses comme ça. Ça dépend comment les sites pornographiques sont référencés. Ils peuvent les trouver. Ensuite, il y a les copains. Eux n'en ont peut-être pas vu, mais si un copain à l'école l'a vu ou son grand frère ou sa grande sœur, voilà, c'est quand même. Puis ils passent quand même beaucoup de temps effectivement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi parfois des moyens d'aller se retrouver ensuite sur des contenus pornographiques. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont exposés assez facilement à tous ces contenus. Moi, honnêtement, ce qui me choque, c'est qu'on soit obligé d'avoir un rapport sénatorial qui recommande de bloquer les sites pornographiques qui ne respectent pas la loi. Ça, je trouve que c'est la situation
assez dramatique. On va venir sur la solution du gouvernement, mais d'abord sur le phénomène et ensuite, comment on pourrait le réparer. Comment ça se passe? Un enfant de 11 ans, d'abord, qui tombe là-dessus, est-ce qu'il va en parler à ses parents? Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va recevoir ces images? Est-ce qu'il va se dire, en fait, c'est ça, l'amour? Est-ce qu'on a une idée?
Alors, je pense que Béatrice Coppereuil a beaucoup d'idées, parce que c'est son travail de recevoir les enfants et les parents qui disent ça. Non, après, ce qui est sûr, oui, bien sûr. Alors, enfin, oui, forcément, théoriquement, il n'est pas tellement prêt à avoir ces images-là. Hein. C'est pour ça qu'ils en sont protégés, les enfants et les adolescents, de ces contenus-là, surtout les enfants, parce que dans leur psychisme, dans leur cerveau, il n'y a rien qui est prêt pour recevoir ça. Ils n'ont pas des cases dans lesquelles ça va arriver. Donc, c'est traumatisant. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va arriver, ils ne vont pas savoir quoi en faire. Donc, ils ne comprennent pas. Après, tout dépend, effectivement, s'ils le voient seuls, s'ils le voient en groupe avec des copains, tout ça, ça va être géré différemment, ça, c'est certain. Ils vont pas nécessairement le dire à leurs parents, ça c'est assez certain aussi, sauf si effectivement ça crée de tels traumatismes qu'ils vont pas le dire, mais ils vont l'exprimer autrement. Donc il va y avoir des cauchemars, il va y avoir des dessins qui vont être des reproductions de choses dont on se doute qu'ils ont vu effectivement des images qu'ils auraient pas dû voir, mais en général, comme beaucoup de cas comme ça, ils ne disent absolument pas avec, à leurs parents, et c'est ça aussi qui est problématique, c'est que les parents ne se rendent pas compte que leurs enfants aussi jeunes sont exposés quotidiennement. Bah, ils n'ont pas conscience du fait que quand ils offrent à leur enfant une tablette ou un smartphone, ils leur offrent en fait de facto, un objet qui leur permet effectivement d'être confronté à ces contenus pornographiques.
Béatrice Coppereuil, Laurence Rossignol, hein, qui a publié un rapport sur le sujet, dit « La pornographie colonise nos cerveaux et colonise l'imaginaire de la sexualité, particulièrement chez les adolescents. » Donc ces images, elles vont teinter toute la... on ne sait pas d'ailleurs à long terme, mais elles pourraient teinter... l'imaginaire sexuel des nouvelles générations.
Il n'y a plus aucune fantaisie. En réalité, c'est une espèce d'infraction de fantasme. La sexualité, elle se construit, elle se vit avec les fantasmes imaginaires, etc. Et là, les images sont tellement imposantes. En plus, la pornographie, ça renvoie de la sexualité une image incroyablement normative, basée sur la performance. Donc finalement, on voit des jeunes adultes, des jeunes hommes, qui sont tout à fait décontenancés, parce que loin de leur rendre service, ça les inhibe plutôt, parce que quand ils se retrouvent avec leurs copines, ils ne sont pas du tout aussi excités. Et donc, ils n'ont plus cette possibilité d'être dans l'échange, d'être dans quelque chose de gradué, parce que ça s'invente et ça se construit, la sexualité. C'est très normatif, et il y a des codes comme ça, d'ailleurs, que les filles adoptent aussi. Hein,
l'obligation
totale, etc. Elles sont très influencées. Elles ont peur de passer pour des imbéciles, donc elles suivent. Ouais.
Les garçons et les filles, comment est-ce qu'ils reçoivent ces images de la même façon ou différemment ?
Les filles, je pense, c'est assez contradictoire. Hein, c'est tout le paradoxe, mais les adolescents ne sont pas à l'abri du moindre paradoxe. Donc, à la fois, elles militent, elles sont militantes, c'est MeToo, etc. Et à la fois, elles se soumettent à des codes extrêmement, extrêmement loin du féminisme. Elles ont une représentation extrêmement soumise à ce moment-là.
Vous avez des enfants qui vous en parlent, vous, librement? Ils n'en parlent pas à leurs parents, mais...
Non, ils n'en parlent pas à leurs parents. Justine a raison. Les plus jeunes, il y a des symptômes, très souvent. Parce que les plus jeunes, ils sont à la fois excités et à la fois, ils sont dans la culpabilité. Donc, ce mélange crée de l'anxiété, en réalité. Et l'anxiété s'exprime par mal au ventre, mal à la tête, cauchemars, etc., etc. Et les plus âgés... ils n'en parlent pas non plus vraiment, mais il y a par exemple aussi des comportements, je pense à un garçon que j'avais reçu il n'y a pas si longtemps, qui s'était exhibé, un garçon de 14 ans quand même, pas un bébé, qui s'était exhibé dans le car scolaire, et donc on voyait bien que, moi quand je l'ai reçu, j'ai immédiatement pensé qu'il avait été, que influencé. C'était comme ça un grand consommateur.
Adrien Brachet, Justine Atlan disait, ça dépend si on regarde chez soi ou à l'école. En fait, on voit très bien que ces images porno, elles s'invitent à l'école. C'est la seule éducation sexuelle qu'a un enfant. Il n'en parle pas à ses parents, à l'école. Alors justement, l'éducation sexuelle à l'école, est-ce que ça existe? C'est moi de mon temps, ça n'existait pas tellement.
Hein. Alors, c'est censé exister. Il y a une loi de 2001 qui dit qu'en principe, on est censé avoir 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité à l'école. Donc, en fonction des âges, bien sûr, on a des contenus adaptés. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs rapports qui ont montré que cette éducation à la sexualité, elle passe totalement à la trappe. Et moi-même, je parlais il y a quelques jours avec un recteur qui me disait, mais face à cette industrie du porno, oui, l'éducation nationale, on est désarmé. Et donc, c'est sûr qu'il y a une nécessité de renforcer cette éducation à la sexualité, parce que dans tout ce qui a été dit, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le porno transmet un certain nombre de normes et une vision totalement fausse de la sexualité. Et donc, ce qu'il faut, c'est que avant que les enfants commence à arriver sur ce type d'image, l'école puisse donner aussi une autre vision de la sexualité. Ah ouais. Et une vision qui respecte, parce que c'est aussi une des missions de l'école, d'enseigner le respect de l'égale dignité des êtres humains et de l'égalité homme-femme. Donc si l'école ne le fait pas, l'école, ça devient le porno, et ça, c'est plutôt problématique.
Est-ce que les enseignants ont envie de donner des cours d'éducation sexuelle à leurs élèves? Et est-ce que les parents d'élèves ont envie que l'éducation nationale leur explique comment on doit se comporter, leur vision de la sexualité?
Ouais, alors je dirais que sur les enseignants, il y a certains enseignants qui sont plus formés, notamment les enseignants de sciences et vie de la Terre, qui font des séances, notamment au niveau de la 4e, sur les questions de reproduction, de contraception, donc eux sont un peu plus habitués. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas formés, et c'est des sujets très délicats, très intimes, et si on ne vous apprend pas comment on doit en parler aux enfants, c'est très compliqué de le faire, parce que voilà, on n'est pas tous spécialistes de ces questions-là. Sur les parents, c'est vrai qu'il y a des familles où ces questions-là sont un tabou. C'est vrai qu'il y a des familles très conservatrices, des familles où on ne veut pas en parler. Mais justement, c'est là que l'école doit jouer son rôle d'émancipation et de respiration. C'est-à-dire que c'est ça aussi l'école. C'est, quel que soit son milieu social, on a accès à un certain nombre de savoirs. Et l'éducation à la sexualité, ça fait partie de ces savoirs.
Les parents, alors, quelles réactions doivent-ils avoir? Non, mais si, par exemple, ils voient que leur enfant, sur son téléphone portable, a des images porno, ou s'il constate que son enfant envoie même des sextos, des choses comme ça. C'est pas facile, hein, les parents, ils ont tendance à dire... Non, vous avez
les parents. Oui, nous les parents qu'on reçoit sur le 3018, ils sont quand ils tombent.
Ah, parce que vous avez des parents qui appellent.
Bien sûr, on a des parents qui appellent pour parce qu'effectivement ils sont tombés sur un échange de leur fille ou de leur fils avec des contenus à caractère sexuel, des choses comme ça. En général, ils tombent des nues, évidemment, mais ça c'est tout parent, hein, parce qu'on pense toujours que notre enfant est plus petit qu'il ne l'est vraiment, et donc on découvre qu'il fait des choses. On est très surpris. Ensuite de ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, les adolescents, à cause de la pornographie, ont banalisé entre eux des échanges de contenu à caractère sexuel ou pornographique. Et ça, c'est vrai que les parents tombent des nues et qu'effectivement, on a des mères qui nous appellent en disant « Mais moi, madame, j'ai 45 ans, jamais de ma vie j'ai fait ça. » Et ma fille, elle a 12 ans et elle envoie des contenus sexuels d'elle-même à un garçon. Et là, vraiment, le monde s'effondre.
À 12 ans, les petites filles, en 5e...
Bah parce qu'elles pensent que c'est ça, être une femme. Elles pensent que c'est ça, être grande. Elles pensent que c'est ça que les garçons veulent. Et puis elles font ça. Et les garçons pensent que pour être un homme, il faut avoir envie de ça. Et que donc, ça fait grand d'avoir envie. Donc, tout, comme disait Béatrice Caporoy, effectivement, chacun reproduit un modèle. Or, le seul qu'ils ont, c'est celui de la pornographie. Donc, qui reçoit chacun comme des injonctions, en fait, mais qui subissent, effectivement. Et ils pensent que pour être un homme, il faut avoir envie de contenu comme ça, à caractère sexuel, mais très tôt. Hein, et que les filles, elles aussi. Et donc, ils vont effectivement échanger. Et aucun des deux, évidemment, ne va oser dire « En fait, je le fais parce que je pense que ça te fait plaisir, mais moi, en fait, pas vraiment. » Et effectivement, le malentendu commence tôt. Très tôt, et puis papa perdure. Donc les parents, si vous voulez, ils sont très très loin de cette réalité-là. Ouais. Ça, c'est évident. Donc ils sont en réalité débordés. Alors après, c'est vrai que c'est difficile pour l'école d'intervenir sur ces sujets-là. Nous, pareil, on intervient beaucoup, et en France, dans les écoles, les collèges et lycées. On parle toujours à un moment de la pornographie. Alors évidemment, quand on intervient auprès d'enfants de 10 ans, on n'en parle pas que de la même façon qu'auprès de lycéens de 15 ans. Mais on aborde ne serait-ce que l'exposition à la pornographie, puisque Internet, il y a ce sujet-là. Il y a vraiment des écoles où les parents ne veulent pas qu'on aborde ces sujets-là devant leurs enfants. Mais vraiment, c'est-à-dire que l'école nous dit non, vous ne pouvez pas parler de ça parce que les parents ne veulent pas.
Mais parce qu'ils ont l'impression que ça va leur donner envie, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est ça.
Les enfants, comment ils sont? Ils sont presque contents ou ils ricanent dans le coin? Quelle est la réaction d'ailleurs? Ou ils sont contents qu'enfin on puisse en parler parce que ça leur tombe dessus et ils sont démunis, quoi.
Mais ils ricanent entre eux, mais en réalité, ils sont quand même pas très fiers non plus. Ils ricanent entre eux.
Ils ont quand même conscience.
Voilà, ils ont conscience que c'est une transgression. Et d'ailleurs, honnêtement, il n'y a plus grand-chose à transgresser. Donc, je pense que ça fait partie aussi un peu des espèces de rites initiatiques du collège. Hein. On va sur le porno. Parce que maintenant, tout est permis. Donc, on va un peu plus loin.
Ouais. Mais on a bien compris, du coup, cette expression, comment le porno impose des normes aux nouvelles générations, c'est-à-dire que les petites filles pensent qu'il faut faire ça et elles le font pour devenir une femme, et les garçons pensent qu'il faut se conduire ainsi et que c'est ça être un homme. C'est terrible, hein, non?
Bah, oui, c'est pas gay, et surtout c'est très... ça s'impose, quoi. C'est quelque chose qui ne décide même pas eux-mêmes. Donc, il n'y a plus de liberté, en réalité.
Donc, 18 millions de Français consultent des sites porno chaque mois. Et là-dessus, les mineurs représentent 12%, soit 2 200 000 mineurs. Un tiers ont moins de 11 ans et deux tiers ont moins de 15 ans. Donc, face à ces chiffres, le ministre chargé de la transition numérique, Jean-Noël Barrot, était hier l'invité de Gilles Bornstein, et il a dévoilé justement les contours de ce nouveau dispositif que veut mettre en place le gouvernement pour empêcher les mineurs d'accéder aux sites porno. On l'écoute, il était hier et invité de Vipol.
Si vous montrez dans la rue à un jeune enfant des images pornographiques, vous vous exposez à 3 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Si vous êtes un site porno aujourd'hui en France et que vous diffusez des contenus, eh bien, c'est jusqu'à présent, vous n'avez eu aucune sanction. Ce qui va changer, c'est que le site porno vous demandera de prouver votre majorité.
Comment ?
Plus précisément, de lui transférer une attestation de vos 18 ans. Libre à vous, au travers d'un système qui va être conçu par des entreprises qui sont déjà en train d'y plancher, d'obtenir cette attestation auprès de tiers. Je parlais des opérateurs télécoms, mais il y en a d'autres qui peuvent le faire.
Donc Justine Atlan, ça va être, je sais pas si ça va se faire, ça va être compliqué. Pour aller sur un site porno, on vous demandera une attestation. Il faudra donc télécharger une attestation de Free, enfin d'un opérateur télécom ou comme pour demander des papiers d'identité pour attester que vous avez bien 18 ans.
Alors, c'est effectivement ce que le ministre a évoqué
hier.
La semaine, sur d'autres titres ce week-end. Pour autant, ça va être une des solutions. C'est pas forcément la seule qui va être retenue. Là, l'idée, quand même, d'un point de vue pouvoir public, c'est de mettre la pression sur effectivement les sites pornographiques qui, il faut le rappeler, le ministre l'a très bien dit, sont dans l'illégalité absolue aujourd'hui. Hein. Ils sont depuis une loi de 2020.
Oui, la loi impose d'empêcher l'accès aux mineurs. Elle doit enfin être respectée, cette loi, dit Laurence Rossignol.
C'est surtout que la loi, depuis 2020, oblige les opérateurs de pornographie à effectivement avoir une solution qui permet de vérifier l'âge des personnes qui viennent consulter leur site. Donc ça fait 3 ans qu'ils sont dans l'illégalité. Ouais. Donc nous, on les poursuit en justice. On est en cassation aujourd'hui, effectivement. Et ce qui est dramatique, je suis désolée de le dire, c'est que la justice ne fait pas son travail. C'est-à-dire que la justice, on lui demande de constater. On ne lui demande pas de décider, on lui demande juste de constater qu'effectivement, comme l'a dit le ministre, les sites pornographiques ne respectent pas leur obligation de vérifier l'âge. Et que donc, à ce titre-là, tant qu'ils sont dans l'illégalité, comme n'importe quel site illégal, ils doivent être bloqués. La justice n'ose pas être celui qui va faire ça, sauf que c'est à eux aujourd'hui en France de faire respecter la loi. Et du coup, on tourne en rond. Alors effectivement, le gouvernement à un moment dit, on va mettre en place un système qu'on va proposer. Il y en a d'autres. Il y a de la biométrie, il y a la carte d'identité.
La biométrie, c'est-à-dire qu'on voit à votre visage que vous êtes majeur ou mineur.
On estime. Voilà, je ne dis pas que c'est la solution qu'il faut être retenue, mais je veux dire, il y a plein de solutions qui existent. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont aussi obligés de mettre en place un certain nombre de systèmes. Donc parallèlement, donc les solutions aujourd'hui techniques, il y en a plein qui existent. La vraie question qu'il va y avoir, c'est l'utilisateur, l'usager d'Internet, laquelle il va adopter avec le plus de confiance, parce qu'il faut qu'il ait confiance, effectivement, qu'il n'ait pas peur qu'on lui vole ses données personnelles, qu'on aille croiser son identité.
Ça
c'est très important.
Privée.
Et puis, effectivement, qu'il soit rassuré et que ça soit facile. Comme vous le dites, que ça ne fasse pas une usine à gaz compliquée, sinon, effectivement, le risque, c'est qu'il aille ailleurs, sur des sites. Voilà. Ouais. Donc, il faut trouver une solution simple, fluide et rassurante et qui fasse de la confiance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va plus pouvoir consulter de la pornographie comme avant. Il va y avoir quelque chose en plus à faire, ça c'est certain.
Béatrice Copper-Royer, si la loi n'est pas respectée, puisque vous le disiez, depuis 2020, ils ont interdiction de faire en sorte que des mineurs puissent avoir accès à ces sites. C'est parce que c'est compliqué techniquement,
ouais,
ou c'est parce qu'il y a la mauvaise, comment dire, pas la mauvaise volonté, mais il n'y a pas une réelle prise de conscience de l'importance de ce sujet. Je cite Thomas Römer, le directeur de l'Observatoire de la parentalité, qui dit « Il ne faut pas se mentir, l'essentiel des consommateurs de porno sont des hommes, alors la gente masculine est peu encline à réguler en disant « Bon, écoutez, c'est pas grave. »
Peut-être, hein, peut-être, mais c'est franchement triste et c'est méconnaître les dégâts que ça fait sur toute cette jeunesse. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'outils techniques, c'est ce que disait Justine, tant qu'il n'y a pas d'outils techniques, la loi n'est pas appliquée parce qu'elle n'est pas applicable. En plus, ils opposent toujours le respect de la vie privée et donc tout ça est effectivement assez complexe. Mais
sur la pédocriminalité, on arrive bien à faire en sorte que c'est... Alors oui, mais ça, c'est interdit pour tout le monde.
Ouais. Ce sont des contenus illégaux par nature.
C'est un délit, ça. C'est
illégaux par nature. Donc ça, c'est
bloqué. Il faut filtrer, c'est là la difficulté. Oui,
ouais, et ça se heurte, c'est ce qu'ils disent toujours, hein, au respect de la vie privée, le truc de face, là.
Après, c'est une question de choix de société aussi, c'est la hiérarchie des droits. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que ce qui est plus important, c'est le droit à la vie privée ou c'est la protection des enfants par des contenus qu'on considère qu'ils sont violents, comme on vient de le dire depuis 10 minutes pour eux.
Adrien Brachet, il y a aussi, en fait, ces images porno, on pense aussi, on ne parlait que des sites Internet, mais... parce qu'on est moins sur les réseaux sociaux, mais de toute façon, maintenant, ça n'est plus... On n'a même plus à aller à la sexualité. c'est la sexualité qui vient à vous, non ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai que l'erreur, ce serait... Alors, les sites pornographiques représentent une grande partie du problème. Mais l'erreur, ce serait de se dire que les images à caractère sexuel auxquelles sont confrontés les mineurs sont seulement sur ces sites-là. C'est-à-dire que les mineurs, notamment sur les réseaux sociaux, vont soit tomber sur des publications à caractère pornographique, soit s'échanger des images. Et parfois, ils vont même s'échanger des images sans le consentement de l'un ou l'autre des mineurs. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle les nudes, qui sont des images dénudées que vont s'envoyer, par exemple, un garçon à une fille. Et vous avez des jeunes filles qui reçoivent ça sans consentement. Et ce sont des images qui, on parlait tout à l'heure de traumatisme sur les vidéos pornographiques, ces images-là aussi peuvent susciter des traumatismes. Donc, déjà...
C'est incroyable, on réalise, parce que...
C'est partout, quoi.
C'est-à-dire, les élèves, ils s'envoient des photos d'eux dénudées.
Ouais. Parce qu'on
découvre les nouvelles pratiques.
Ça banalise le nu, ça banalise les images crues, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que c'est d'une extrême banalité.
Ouais. Et non, mais moi, ce que je voulais rajouter, on parlait tout à l'heure de faillite de la justice. Moi, je pense que c'est aussi une faillite politique. C'est fou qu'il ait fallu autant de temps sur un sujet comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a un sujet de santé publique, il y a un sujet d'éducation, il y a un sujet d'égalité homme-femme. Et il a fallu autant de temps pour que les politiques se saisissent de cette question.
Alors, d'autant que ces images de nus qu'envoient les jeunes filles, par exemple, parce qu'elles disent que c'est comme ça qu'on devient femme, elles peuvent vous revenir en boomerang par la suite, parce qu'elles sont diffusées sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le revenge porn, hein, je crois. Ouais. Et le revenge porn, ça peut mener au désespoir des jeunes filles ou des jeunes garçons, et même jusqu'au suicide. Tout ça pour vous parler du harcèlement qui s'ensuit.
Oui,
et la conséquence, l'acte 2 de ces nudes qui circulent sur Internet. Alors, la France a été évidemment très touchée par le suicide de Lucas, qui s'est suicidé à 13 ans. Il était l'objet de harcèlement. Je vous propose d'écouter, parce que malheureusement, ce geste n'est pas isolé, je vous propose d'écouter ce témoignage très fort. C'est une mère de famille, la maman de Juliette. Juliette qui, elle aussi, a été victime de harcèlement. Elle avait à peine 15 ans et c'était suite précisément à un chantage à l'une de ces images qu'elle avait envoyées d'elle à son petit copain dénudé. Eh bien, ça s'est mal terminé. Sujet de Laurence Naon et Patrice Achéré.
C'était une jeune fille très joviale. Elle aimait les gens, elle était pétillante, elle aimait la mode, le cinéma, l'ado, dans toute sa splendeur.
Se raccrocher aux jolies choses, se remémorer les bons souvenirs pour supporter la douleur. Pour Véronique Lebas, tout a basculé il y a 7 ans lorsque sa fille Juliette s'est suicidée. La lycéenne n'a que 15 ans ce 3 mars 2016. Harcelée par d'autres élèves, elle ne voit qu'une seule issue pour mettre un terme à ses souffrances, se jeter sous un train. À sa famille, elle laisse une lettre d'adieu.
Certaines personnes m'ont fait du mal et continuent de le faire. Toutes ces rumeurs me bouffent la vie. J'ai été victime de harcèlement. Il me restait encore beaucoup de choses à vivre, mais je n'avais pas la force de continuer. Ne m'en veuillez pas, mais c'est trop dur pour moi. Je n'en peux plus.
Sa première phrase, c'est « Maman, je t'aime, je ne voulais pas te décevoir ». Mais on n'est jamais déçu de ses enfants. On est complètement détruit. On n'est plus pareil, on vous enlève une partie de vous. Et après, on ne vit pas, on survit. C'est une famille qui est dévastée. Il n'y a pas une journée sans qu'on pense à Juliette.
Le drame s'est noué dans le lycée de l'adolescente. Un petit groupe d'élèves lui en veut et cherche à lui nuire. Ils parviennent à récupérer auprès de son ex-petit copain une photo d'elle dénudée qui était censée rester privée. Comme une traînée de poudre, le cliché est diffusé et partagé massivement dans tout l'établissement et avec son flot de haine.
Elle vit des insultes, mais des insultes ordurières. Je vais parler comme eux, hein. La salope de service, la putain, c'est celle qu'il faut abattre. On veut qu'elle souffre, on va la pourrir. Et quand vous recevez du H24, parce que on a réussi quand même avec la police à avoir tous ces messages, c'était non-stop. Ils dorment jamais, je pense. Ça la mine, ça la ronge, et nous, elle nous en parle absolument pas.
Devant ses amis quelques jours plus tôt, Juliette avait exprimé son profond mal-être en tentant de mettre fin à ses jours une première fois. Ses camarades l'avaient récupérée in extremis sur les rails. La jeune fille leur avait alors fait promettre de garder le secret.
Une de ses amies s'inquiète et en parle à ses parents. Et le papa décide d'appeler le lycée. Il dit que sa fille a assisté à une tentative de suicide sur les rails et que la Juliette va pas bien.
Et pour autant,
il n'y a pas de suite. On n'en entend jamais parler.
Dans l'enquête qui a suivi le suicide de Juliette, le lycée n'a pas été mis en cause. En revanche, 6 adolescents ont été renvoyés devant la justice. 5 d'entre eux ont d'ores et déjà été condamnés en première instance. Les peines vont de 2 à 4 mois de prison avec sursis.
Oui, ils ont été reconnus coupables. À 15 ans maintenant, on est responsable. On sait ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et je leur ai dit le jour du procès, j'avais besoin de leur dire. Ils l'ont poussé au suicide, c'est leurs actes qui ont fait qu'elle se suicide. Moi, je ne leur pardonne pas, je leur pardonnerai jamais.
Pour Véronique Lebas, chaque nouvelle affaire de harcèlement scolaire est vécue comme un déchirement.
Quand j'entends à la télé que le petit Lucas s'est suicidé, dans quel monde on vit ? Il y en a marre, quoi. Moi, je dis aux parents, faites attention, vos enfants peuvent être harcelés, mais ils peuvent aussi être harceleurs. Et il y a beaucoup plus de harceleurs que d'harcelés. Il faut qu'il y ait des lois, il faut que ce soit bien encadré pour que le décès de tous ces enfants qui sont harcelés serve à quelque chose et que ce ne soit pas vain.
Véronique Lebas et sa famille se sont jurés de poursuivre le combat contre le harcèlement en la mémoire de Juliette.
Justine Atlan, ce genre de témoignage, j'imagine heureusement, très rare, mais en revanche, sans aller jusqu'au suicide, vous recevez beaucoup de téléphones et plus qu'à... Alors, il y a 2 numéros. Il y en a un pour le harcèlement normal, j'allais dire 30-20, et un pour le cyberharcèlement 30-18. C'est quoi d'ailleurs la différence entre les deux ?
Le 30-20 ne traite que les cas de harcèlement purement scolaire et va renvoyer les familles vers un référent académique de l'établissement concerné pour qu'il le gère. Ouais. Le 30-18 va gérer, quand il y a une dimension cyber en plus, va prendre en charge globalement le problème, c'est-à-dire à la fois le problème scolaire en renvoyant pareil à un référent académique, mais aussi tout ce qui est cyber. Et on a des capacités de signaler aux services de modération de tous les réseaux sociaux.
C'est-à-dire tous les petits commentaires qui vont être en dessous, qui vont vous traîner dans la boue.
Et de leur dire, il y a quelqu'un qui est victime, enfin un mineur en l'occurrence, qui est victime de cyberharcèlement sur votre plateforme. Il faut supprimer les comptes, les contenus, les nudes qui circulent, etc. Et tout. Et puis après, on peut travailler aussi avec la police et d'autres acteurs institutionnels pour prendre en charge le jeune.
Et on voit que ça peut vous mener en prison. Oui. 15 ans, les enfants de 15 ans, mais ils en ont conscience, ça, les enfants, que procéder à du harcèlement, ça peut vous mener en prison ?
Alors, je pense qu'ils sont relativement informés quand même de ça, parce qu'il y a quand même, depuis plus de 10 ans maintenant, une politique publique contre le harcèlement, en tout cas à l'école, au niveau de l'éducation nationale, et ils ont quand même de l'information sur les peines qui existent. Maintenant, c'est vrai, quand on est adolescent, on ne se sent pas tellement concerné par ça, parce que dans la réalité, on ne connaît personne qui a été condamné pour ça. C'est d'ailleurs le gros problème de... Parce que la loi n'est pas si mal faite. En France, on a un peu un problème. On crée des lois toutes les 5 minutes. Il n'y a pas besoin. Le harcèlement moral, il est prévu dans la loi. Le cyberharcèlement, c'est une circonstance aggravante depuis 2014. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Le problème, c'est qu'on n'applique pas les lois. Donc ça, effectivement, on a un gros problème avec ça en France. Donc on ne les applique pas. Les gens ne sont pas formés pour les appliquer, pour les reconnaître, d'accord, etc. Donc ça, c'est vrai que ça laisse un sentiment d'impunité qui est très fort sur Internet pour tous les auteurs d'infractions ou de délits qui considèrent effectivement qu'ils risquent rien.
Quand parce on qu'ils sont derrière leur écran parce que c'est vrai que cyberharceler, cracher sur quelqu'un dans la cour, on voit que c'est du harcèlement. Mais mettre un point levé à un tweet ou à un message sur Internet qui traîne dans la boue une personne, c'est la même chose, c'est du...
Alors oui, d'ailleurs, il y a une loi qui a été clairement écrite, dites loi Schiappa, qui effectivement précise bien que quand on participe finalement à un harcèlement,
à
ce qu'on appelle en meute, voilà, un raid numérique, on est considéré comme étant complice. D'ailleurs, la jeune Mila, qui a été victime d'un harcèlement en neutre dramatique, il y a effectivement eu des auteurs qui ont été identifiés et qui ont été condamnés parce qu'ils avaient juste mis un tweet. Mais parce qu'effectivement,
ils savaient... Et derrière, c'est monsieur et madame tout le monde, d'ailleurs, c'était incroyable.
Ah ben, c'était monsieur... Rappelez-vous, les commentaires des médias, ouais, c'était « Mais c'est incroyable, c'est monsieur et madame tout le monde. » Oui, c'est monsieur et madame tout le monde.
La personne la plus urbaine au monde,
absolument,
insérée,
parce voilà. Que, c'est, comme vous dites, c'est pas grand-chose. On est derrière, on a l'impression d'être caché dans l'anonymat, donc dans l'impunité, et c'est pas grand-chose d'appuyer, comme vous dites,
oui, mais
sur
pour
un pouce.
En revenir aux adolescents, les adolescents, ça commence hier. Je recevais une fille de 14 ans qui est scolarisée dans un collège du 2e arrondissement, donc c'est pas la zone. Elle me disait qu'il y avait un garçon qui subissait des insultes homophobes en ce moment, et elle me disait, mais de toutes les façons, au collège en ce moment, c'est la mode. Je dis, comment ça, c'est la mode? Elle me dit, oui, c'est la mode. Tout le monde s'injurie, c'est des injures homophobes et racistes. Et elle me disait, comment tu m'expliques ça? Elle me dit, parce qu'en ce moment, au collège, c'est les luttes de pouvoir. Et donc, en réalité, ils ont l'impression maintenant, il y a une agressivité quand même qui se développe énormément. Je trouve que dès la cour de récréation de l'école primaire, et moi je vois énormément de petits harcèlements chez les enfants qui ont 9-10 ans. Hein.
Mais plus qu'avant, parce que ça a toujours existé, la guerre des boutons.
Ça a toujours existé, mais là je vous assure que c'est très très souvent quand même. Et c'est surtout une intensité différente. Et au collège, évidemment que ça se passe dans la cour du collège, mais ça se poursuit après sur les réseaux sociaux. Donc l'adolescent, il n'a même plus l'enveloppe sécurisante de sa chambre, si je puis dire. Et il revient chez lui et ça continue. Donc c'est ça, c'est une espèce de caisse de résonance incroyable qui, pour le coup, n'existait pas avant.
Adrien Brachet, ce qu'on peut dire, d'abord, est-ce que les filles et les garçons sont égaux face à ce harcèlement? Et est-ce que les réseaux sociaux ont favorisé une désinhibition de la violence?
Oui, alors déjà, vous avez des enquêtes, des études scientifiques même qui montrent qu'en effet, les réseaux sociaux favorisent la désinhibition. C'est-à-dire ça peut favoriser le fait que vous êtes désinhibé, donc vous faites plus de confidences, vous êtes moins timide, etc. Donc ça, très bien. Mais ça peut favoriser aussi la violence et l'agressivité. Et vous êtes derrière un écran, donc vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites. Donc ça, c'est sûr que ça favorise la désinhibition. Sur la différence entre les garçons et les filles, ce que montrent notamment certaines études, c'est que les filles, dans les harcèlements, le harcèlement qu'elles subissent de la part des garçons vont subir plus de harcèlement à caractère sexuel. Là, il y a une inégalité, mais après, vous avez aussi les insultes homophobes, les insultes racistes. Donc, à la fois, en effet, il y a ces spécificités pour les filles, mais ce qu'il faut dire aussi, et je pense que c'est important, c'est que le harcèlement, ça peut concerner tout le monde. C'est-à-dire que ça concerne tous les milieux sociaux, ça concerne potentiellement tous les collèges, tous les lycées, tous les primaires. Donc, c'est un sujet de société majeur. C'est-à-dire que ça peut vous arriver à vos enfants du jour au lendemain et votre enfant peut être harcelé comme il peut être un harceleur.
Mais il n'y a pas que les garçons qui harcèlent, hein, il ne faut pas faire croire.
Bien sûr,
il y a que les garçons qui harcèlent. Les filles, elles sont super championnes aussi. Hein.
Alors, est-ce que c'est entre elles? Est-ce que d'ailleurs,
Beaucoup entre elles. Et sur TikTok, par exemple, j'en ai une il n'y a pas longtemps. Elle a tagué, je ne sais pas comment on dit. Elle a mis des commentaires injurieux sur la photo d'une copine ou sur la vidéo d'une copine. Tout ça, ça fait le tour du collège. Et finalement, ça prend des proportions extrêmement importantes. Et donc, les filles, elles sont aussi très, très concernées. Hein.
Justine Atlan, on a vu dans le sujet qui était dramatique, c'est que la mère n'était pas au courant. Et que la jeune fille, la Juliette, dit n'en parlez pas autour. Comment déceler que son enfant vit un drame? Vous disiez tout à l'heure le porno, les parents tombent des nues. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui fait qu'on peut détecter qu'il y a le mal-être de son enfant?
Ça, c'est la grande question des parents. Parce qu'évidemment, l'angoisse absolue du parent, surtout quand il voit ce genre malheureusement, de drame, c'est de se dire, et mon enfant, si jamais ça lui arrive, il ne me le dira pas, et voilà comment je peux faire. Alors, ce qui est vrai, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, on lutte contre l'enfant lui-même qui fait tout pour que son parent ne le voit pas. Ça, c'est vrai. Donc, il fait tout pour protéger son parent, pour ne pas le montrer, pour des raisons diverses et variées. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, pour autant, malgré tous ses efforts, il va évidemment changer quand même, parce qu'il vit quelque chose de dramatique qui le bouleverse et qu'il y a quand même des indices. Ça, c'est vrai. Les indices, on les résume assez rapidement en disant, il change. Alors, il n'y a que vous, parents, qui connaissez votre enfant quand il va bien. Et bien là, il va être différent de quand il va bien. Alors, ça peut être des signes très différents. Ça peut être ne plus s'intéresser aux mêmes choses. Ça peut être moins bon à l'école. Ça peut perdre de l'appétit, pas se lever le matin. L'école qui peut vous dire qu'il passe beaucoup de temps à l'infirmerie ou qu'il n'est pas souvent en cours de récréation. C'est pour ça que c'est très important de parler avec l'établissement scolaire parce qu'eux, ils voient des choses que vous ne voyez pas. Ils passent quand même plus de temps à l'école que chez vous. Donc voilà, donc il y a des signes en fait. Mais c'est vrai qu'il faut. Alors après, il ne faut pas. Et la mère le dit, et ça, on le dit tout le temps aux parents, c'est que heureusement, la majorité des enfants ne sont pas harcelés. En revanche, la majorité des enfants vont être témoins ou auteurs à un moment donné de harcèlement. Donc quand vous éduquez votre enfant, passez-lui aussi des messages en tant qu'auteur. C'est-à-dire, apprenez-lui à ne pas harceler. Parce que c'est un peu comme dans le viol. Hein. Si on passe son temps à dire aux victimes qu'il faut faire pour ne pas se faire violer, mais qu'on ne dit pas aux violeurs de ne pas violer, on ne résout jamais le problème. D'accord ? On apprend aux victimes éventuellement à gérer un problème, mais on ne résout pas le problème. Et le harcèlement, c'est ça aussi. Il faut se dire que tous, on a une responsabilité de dire à nos enfants, si tu vois ça, voilà ce que tu dois faire et pas faire.
D'accord.
Et effectivement, évite de le faire. Et c'est facile, effectivement, d'être embarqué dans des mouvements de harcèlement à l'adolescence. Parce qu'on a besoin d'être dans le groupe, parce qu'on ne veut pas se dissocier, etc. Et ça, c'est une responsabilité d'adultes, nous les adultes, à l'école, sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il n'y a pas assez d'adultes, ça c'est sûr. Mais à l'école aussi, de leur apprendre ça et de protéger, effectivement, un vivre ensemble avec, comme vous l'avez dit, les valeurs de notre société, de la démocratie, de la République, et de les affirmer quotidiennement. Et si on ne le fait pas, ben voilà, c'est effectivement. Ça,
et Béatrice Copper-Royer, comment il faut en parler à ses enfants? C'est pas facile parce qu'ils veulent pas en parler, ils se ferment comme des huîtres, ils développent même des stratégies pour vous faire croire que tout va bien.
Mais on peut en parler des petits, puisque quand il y a ces espèces de petites querelles, par exemple en cours de récréation dans le primaire, on peut leur montrer que quand elles se mettent à 3 ou 4, je parle des filles parce que dans le primaire, il y a beaucoup d'histoires entre filles assez méchantes, on peut leur expliquer que c'est ça le harcèlement. Hein, que prendre une fille pour cible à 3 ou 4, c'est du harcèlement. Donc moi, je pense que les parents ne peuvent pas faire une impasse de l'éducation à tout ça, hein,
alors,
numérique.
Vous parliez du harcèlement qui est de plus en plus répandu, y compris dans les petites classes. Je vous propose d'écouter ce témoignage. C'est une jeune fille qui est en 3e et qui raconte qu'elle a été harcelée quand elle était 6 ans auparavant, donc quand elle était en CE2. Bah, vous allez voir, c'est très triste à écouter. On l'écoute.
Ah oui, moi, j'ai déjà fait harceler en primaire. C'est violemment, parce qu'il trouvait faire tous les prétextes possibles. Parce que j'étais réservée, c'est tout. Et j'avais les deux dents écartées et tout, comme ça. Je me faisais frapper et tout. Oui. Ça a duré 2 ans.
C'est incroyable, Justine Atlan, comme quand on est petit, la moindre aspérité, la moindre différence vous vaut d'être traîné dans la boue. Et la jeune fille dit « j'avais les dents écartées
». Alors oui et non.
Ah bon ?
Parce que tous les enfants qui ont les dents écartées ne se font pas harceler. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais effectivement, c'est vrai qu'on oublie toujours, la littérature, on a beaucoup parlé, la violence des enfants. Enfant, c'est un petit animal humain qui effectivement vit plein de choses, fait plein de choses. Si, encore une fois, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'apprentissage du vivre ensemble, etc., c'est vrai que si on les laisse seuls, entre enfants, comme ça, sans rien leur apprendre, oui, ça peut être très sauvage, très violent, effectivement.
S'ils sont éduqués aussi sans limite, hein, parce que les enfants, maintenant, les parents sont absolument enchantés de leurs enfants. Il y a une empathie qui se prolonge, et on leur apprend pas, au fond, assez tôt, qu'ils sont pas le centre du monde, que les autres existent et qu'on peut de temps en temps se mettre à leur place. Donc, je pense que ça aussi, c'est pas très compliqué. Dans la petite enfance, sortie de la période de toute puissance de l'enfant de 3 ans, on peut lui montrer peu à peu que les autres existent et qu'ils doivent les respecter.
Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que jamais dans le monde adulte, on ne se balance à la tête des horreurs comme on les a l'impression que les enfants sont sans filtre.
Oui,
ma question.
Ils sont complètement sans filtre, effectivement. Il y a des pulsions agressives qui demandent qu'à être contrôlées. Et c'est pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut poser des limites aux enfants ? C'est pas par principe idiot, c'est simplement parce qu'il faut contenir leur agressivité qui sinon enfle et prend de l'ampleur.
Alors là, en l'occurrence, il n'était pas question de téléphone portable. Néanmoins, Adrien Brachet, on l'a dit, ô combien les téléphones portables démultiplient et offrent une multiple source de moqueries, parce que c'est vite fait de faire un petit commentaire.
Et puis on peut filmer.
Est-ce que ça pourrit l'ambiance dans les écoles ? Et est-ce que les directeurs disent on est démunis, on a tout essayé, posez-le à l'entrée, il n'y arrive pas, quoi.
Alors c'est vrai qu'il est censé avoir des interdictions, mais ces interdictions souvent ne sont pas respectées. Et vous avez beaucoup de phénomènes de harcèlement qui commencent comme ça, où dans une classe, on va filmer un élève, on sort son portable. Vous avez même des profs qui se font filmer et dont les vidéos circulent ensuite sur les réseaux sociaux. Donc oui, ça fout totalement le bazar dans les classes. Et puis ça suscite aussi, au-delà de ça, au-delà du bazar que ça suscite des problèmes d'attention, de troubles de l'attention et d'enfants qui vont trouver, alors soit qui ont utilisé avant leur téléphone et qui, résultat, sont moins concentrés, soit d'élèves qui vont essayer de trouver des stratégies, on va le cacher, je ne sais pas, dans sa trousse ou des choses comme ça, pour pouvoir continuer à s'en servir pendant qu'on est à l'école. Et attention, on ne parle pas seulement du lycée, l'âge moyen du premier téléphone, je crois que c'est autour de 9 ans, donc 9-10 ans, donc on ne parle pas des adolescents quasiment adultes de terminale, on parle de jeunes de 6e, par exemple, CM2, 6e
primaire. Ouais. Alors, Justine Atlan, est-ce qu'il faut éduquer les parents vis-à-vis du téléphone portable de leurs enfants et mettre des règles, et on ne le fait pas assez parce qu'on se dit bon...
Mais les parents, enfin...
Vos recommandations ?
Les parents, très souvent, sont nos pires ennemis, très honnêtement. Ils ne sont pas passibles, les parents, parce que ce que vous disiez, par exemple, par rapport au collège, l'interdiction, en fait, c'est souvent le parent qui veut pouvoir joindre son enfant à tout moment de la journée, même quand il est en classe, et que donc, c'est lui qui ne supporte pas éventuellement que son enfant n'ait pas son portable avec lui toute la journée. Voilà. Il y a un vrai problème avec les parents, et ça rejoint...
C'est un cordon ombilical.
Voilà, ça rejoint ce que Béatrice Copparier disait tout à l'heure sur, effectivement, comment on éduque les enfants aujourd'hui et tout. Voilà, il y a un vrai sujet, les parents ne sont pas faciles à gérer. Si, franchement, ils adhéraient à tout ce qu'on vient de dire depuis le début, et qu'ils le faisaient avec... Voilà, c'est pas le cas. Les parents sont, par exemple, les premiers complices à laisser leurs enfants s'inscrire sur un réseau social à 9-10 ans alors qu'ils ne sont pas autorisés à 13 ans. Il ne faut pas croire que les enfants le font en cachette de leurs parents. Ce n'est pas vrai. Donc voilà, donc les parents, effectivement, il y a tout un travail. Alors évidemment, les parents ne sont pas du tout malveillants. Hein, donc souvent, ils le font par ignorance, c'est vrai. Donc, ou par lâcheté, entre guillemets, pour être aimé, ou par peur de ne pas être aimé par leur enfant, ou par peur du conflit à l'adolescence, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut les aider, il faut les informer, il faut leur faire prendre conscience des risques sans pour autant qu'ils diabolisent les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est essentiel, parce que malgré tout ce qu'on a
donc
dit...
Donc on ne peut pas interdire.
Non, dire... on peut pas, voilà, parce que la solution à interdire, ce qui est la plus facile évidemment, mais ça serait vraiment...
Je suis tranquille, il n'y a pas internet à la maison.
Mais ça serait couper les ados de contenu extraordinaire qu'ils ont, de contenu que les jeunes filles ont sur leur sexualité, parce que ça existe quand même aussi beaucoup de vidéos, de chaînes YouTube, de comptes Instagram qui leur apprennent énormément de choses que personne ne leur dit nulle part ailleurs. Donc il y a plein d'enjeux, qu'il faut pas les priver de ça. Mais effectivement, il faut pouvoir d'abord avoir une gradation dans les usages numériques, pas avoir tout de suite tout, et ça, et c'est vrai que ça se travaille. Il y a des choses qui existent, mais encore une fois, il faut donner le vrai âge, parce que dans ce cas-là, on va pouvoir avoir accès à des contenus qui ne vont pas être les mêmes. Il y a des paramétrages, il y a la fonctionnalité, mais c'est vrai que si vous faites croire au réseau social que votre enfant a 18 ans alors qu'il en a 13, effectivement, il ne va pas profiter d'un certain nombre de choses qui existent. Il y a du contrôle parental, qui n'est pas forcément miraculeux, mais qui peut avoir une vraie vocation pour encadrer le temps, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a un vrai problème de temps passé sur ces outils, au-delà du contenu qu'on
voit. Mais alors, il faut limiter, pas plus de 2 heures par jour.
Bah déjà, il ne faut pas considérer l'outil numérique, qu'il soit tablette ou téléphone, comme un jouet. C'est jamais anodin. On n'offre pas un jouet. C'est pas une boîte de Capla. C'est pas quelque chose qui sert juste à s'amuser. C'est un moyen de communication qui met en contact avec des tiers et avec des contenus qui sont à la base les mêmes pour les adultes. Béatrice. Donc quand on a ça en tête.
Ça alors fait justement, un peu on dort pas avec le soir. Le soir, on prend le téléphone de ses enfants.
On dort pas avec le soir parce qu'on voit des adolescents qui sont épuisés et quand on fait sa petite enquête. En fait, ils ne dorment pas. En tous les cas, ils sont sur le réseau jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Ils se lèvent à 7h.
Donc, on le prend le soir, les adultes.
On le met
est-ce qu'on regarde ce qu'il y a dedans ou est-ce qu'on... Non, on ne va pas violer l'intimité.
Moi, j'ai ma théorie. C'est que je conseille aux parents de dire à leurs enfants, je ne te prendrai pas en traite. Je n'irai certainement pas regarder derrière ton dos. Mais une fois de temps en temps, inopinément, avec toi, je ferai un petit check de ce que tu fais. Quand ils ont 12 ans, 13 ans, pas quand ils en ont 17. Mais je pense qu'à un moment, quand on les laisse si jeunes et beaucoup trop tôt, c'est ce que disait Justine, c'est que les parents, ils ont toujours l'impression que leurs enfants sont hyper précoces. Donc,
c'est vrai.
Hyper précoces. Et donc, ils peuvent faire... La petite de 12 ans est tellement maligne qu'elle part faire ce que font les autres de 15 ans. Bon, donc, c'est ça aussi. C'est effectivement, on a du mal à convaincre les parents que chaque chose en son temps.
Et le problème aussi, c'est que souvent les parents eux-mêmes sont dépassés et que les enfants savent mieux se servir des réseaux sociaux que les parents, notamment parce que les réseaux sociaux, les applications qu'utilisent les enfants changent très vite. C'est-à-dire qu'il suffit de 2-3 ans pour qu'on change de réseau social. Il y a une époque, on était Snapchat, Instagram, TikTok est arrivé, en 2 ans, ça a tout bousculé. Et donc le problème, c'est que les parents, ils se retrouvent face à des outils qu'ils ne savent pas utiliser. Ils ne se rendent pas vraiment compte de ce que leurs enfants y voient. Donc c'est aussi ça le problème, c'est que les parents sont souvent démunis et mal formés.
Alors, moi, je suis optimiste, parce que je me dis que les jeunes parents, maintenant, ils vont finir par tout.
C'est la génération Internet qui y arrive. Un chiffre, notre temps libre, 60% de notre temps libre, vous savez à quoi on le passe ? Derrière des écrans. D'où cette initiative à Brest, ce sont les habitants qui sont invités, alors vous allez voir, à se détacher de leur téléphone portable. C'est une opération qui s'appelle « Posons nos smartphones », sujet d'Antonin Blanc.
Toute notre vie est dedans, les photos, les vidéos. C'est une prise de conscience qu'il faut avoir.
Ils sont des dizaines à relever le défi. Réduire son temps d'écran d'une heure sur les smartphones. À Brest, la ville, le CHU et la faculté de médecine ont décidé de se prêter au jeu. Mais c'est loin d'être simple pour tous.
C'est difficile de se dire que on n'utilise pas le téléphone et qu'il faut s'occuper avec autre chose. Mais au fur et à mesure de la semaine, on s'y fait.
Je réduis d'une heure et demie. J'ai plus joué avec mon petit frère, du coup, au Lego.
Selon une étude, les écrans captent plus de 60% des temps de loisirs des Français.
Alors, comme vous le disiez, Adrien, il y a une multitude de réseaux sociaux et à chacun son utilité. Écoutez, ces témoignages de jeunes adolescents.
En général, pour mes amis, plutôt Instagram et Snapchat. Après, pour la famille et pour des messages vraiment importants, j'utilise Messages et WhatsApp.
Ce que je préfère, c'est que je sais depuis combien de temps j'ai envoyé mon message, quand la personne l'a vu et depuis combien de temps la personne l'a vu.
Alors Adrien Brachet, on peut dire qu'en fait, dans une chambre d'ado, maintenant, quand il travaille en permanence, Il a son livre d'histoire géo et à côté, il a son, ben alors, il reçoit des notifications.
C'est ça qui est terrible, et notamment les notifications, c'est terrible parce que ça crée des interférences sans cesse dans le cerveau où vous êtes en train de faire une activité, puis vous êtes interrompu, donc vous passez à autre chose. Pour le cerveau, c'est vraiment problématique. Donc notamment, c'est vrai qu'un conseil qu'on peut peut-être donner aux parents, c'est conseiller de limiter à leurs enfants de limiter les notifications, parce que au moins, si vous n'avez pas de notification, vous n'allez pas être tenté si ça apparaît à l'écran d'y aller. Mais encore une fois, sur ce que je vois ici, c'est terrible que la puissance publique, sur un sujet qui on parle de santé publique, on parle même d'éducation, parce que ça peut avoir des conséquences sur la concentration, donc sur le niveau des élèves aussi, on parle, je veux dire, tout ça est un tout, le débat sur l'éducation, et qu'on ne soit pas plus allant pour réguler ce genre de pratiques.
Justine Atlan, est-ce qu'on n'est pas aussi un phénomène vieux schnock? Parce qu'à notre époque, on disait, la télévision, vous êtes abrutis par la télévision. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux et les jeux vidéo aussi, qui sont très critiqués, on n'en a pas parlé, où les enfants sont capables
moins
de jouer.
Moins.
Il y a eu une diabolisation des jeux vidéo il y a 15 ans à peu près. Aujourd'hui, on en est un peu revenu, on a limité. Il y a effectivement un certain type de jeu massivement multijoueur sur lequel il faut faire attention, qui peut générer un peu de pratiques excessives. Pour le reste, je pense que maintenant, je crois que 80% de la population qui joue aux jeux vidéo parce que les anciens ados sont devenus adultes et que c'est une pratique de loisir très répandue. Donc je pense que les jeux vidéo, c'est plus calé. En revanche, effectivement, les réseaux sociaux, c'est une industrie qui est très différente. Il ne faut pas tout mélanger. Le problème, c'est le smartphone quand même, parce qu'aujourd'hui, finalement, si on veut effectivement se séparer des écrans, on ne peut plus téléphoner parce que tout est dans le même objet. Et ça, c'est vraiment le coup de génie, malheureusement, de Steve Jobs et de l'iPhone et maintenant du smartphone. C'est qu'en fait, tout est dans le même objet. Donc en fait, quand on
même en vacances. La plage,
vous vous rendez compte que finalement, je vais prendre une photo. Ah c'est mon smartphone. Je vais aller voir mon répertoire. Ah c'est mon smartphone. Je vais à un réveil. Ah c'est mon smartphone. Je vais chercher une carte. Ah c'est mon smartphone. Je vais téléphoner à un copain. Ah c'est mon smartphone. Tout est dans le même objet. Donc en fait, soit on se prive de tout, soit on garde tout. Voilà. Et là, on a été complètement piégé par ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose sur l'objet qui est très important. Et il faut qu'on se fasse l'effort de dissocier les usages, qu'on sache où on veut les faire et comment, et qu'on ne soit pas piégé par la proposition que nous ont faite d'emblée, effectivement, les constructeurs avec le smartphone et les réseaux sociaux, parce qu'ils nous ont complètement conditionnés et on ne pense que comme eux nous ont proposé les choses. On peut reprendre
Je reviens là-dessus, parce que sur tout dans le même objet, par exemple, quand je dis à des adolescents qui ne dorment pas, etc., mets ton smartphone dans la cuisine, et puis toi, pas dans ta chambre, et il n'est pas mon réveil.
Ah bah voilà.
Donc j'ai acheté un réveil.
Mais est-ce que on accuse aussi les réseaux sociaux d'être des machines à capter l'attention avec ces micro vidéos là de 40 secondes? Alors c'est un système de récompense dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on envoie une.
Oui, c'est très addictif.
La suivante est juste après.
Mais c'est leur modèle économique au-delà d'être sur le cerveau.
C'est leur modèle économique.
Alors, c'est plus on passe de temps, plus ils vont pouvoir vendre notre temps et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc c'est vraiment une conception, c'est une des entreprises qui sont conçues comme ça.
C'est très perverse parce que ça donne l'illusion de s'ouvrir au monde, mais en fait en général les algorithmes sont construits de telle façon qu'on ne va avoir toujours qu'un type de contenu ou qu'on va retrouver le type de contenu propre à son milieu social ou propre à son milieu. Donc c'est une fausse.
Il y a des réseaux sociaux qui sont différents. Par exemple, on a Snapchat, on a Instagram. Alors chacun.
Oui. Alors notamment celui qui pose le plus problème en ce moment, notamment l'Arcom l'a dénoncé, c'est TikTok, c'est-à-dire que TikTok est le moins bien régulé, celui où en effet on a toutes ces petites vidéos où on passe très vite d'une vidéo à une autre. Donc c'est vrai qu'il y a certains réseaux sociaux qui jouent plus ou moins le jeu, et pour l'instant TikTok est celui qui le joue le moins.
On peut décharger, enlever le charge.
Retirer l'application. C'est vrai que souvent on essaye d'expliquer ça aux enfants, mais en fait il y a tout un, c'est-à-dire qu'il suffit pas, on garde un compte, si juste on supprime l'application. Donc il faut supprimer son compte et ensuite supprimer l'application. Donc c'est plus compliqué que juste supprimer l'application, parce que vous avez des enfants, on peut très bien leur dire ok, donc je t'enlève l'application, mais l'enfant va dire ah bah oui, mais mon compte est toujours actif, donc on va continuer à voir ce que je fais, etc. Donc et les procédures sont pas évidentes, et certains réseaux sociaux jouent pas trop le jeu, c'est compliqué de se désinscrire, etc., parce que forcément ça les arrange.
En fait, c'est incroyable comme ces réseaux sociaux, qu'on parle de harcèlement, on parle de vidéos X, et on parle de machines à tout faire avec ce téléphone portable que vous avez là. Moi, je ne l'ai pas.
Et moi non plus.
Et, voilà,
Et sur la concentration, on est quand même consulté sans arrêt sur les troubles de concentration. Et toutes ces vidéos qui vont à toute allure, ça surdéveloppe l'attention divisée. Et
l'attention divisée, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire une attention qui bouge tout le temps sur des supports mobiles. Et l'attention soutenue, par exemple, sur un cours, sur un livre, elle est de plus en plus diminuée.
même si, pour terminer sur une note positive, je suis persuadé qu'il existe des tas de cours sur Internet où on vous explique très intelligemment le théorème de Pythagore. Il y a aussi le meilleur qui s'y trouve et qui permet de s'élever. Et
voilà. C'est pour ça que c'est si compliqué.
C'est compliqué qu'on ne peut pas interdire.
Bien, voilà. Bien sûr que non, c'est pas le sujet. Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre tous ces phénomènes qui touchent nos enfants. Vous restez sur France Info. On se retrouve lundi pour un nouvel Info C'est Clair. Bon week-end et à lundi.